Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne quinzaine. Bienvenue à bord de ce 8ème épisode de Si les 90s m'étaient comptés, le mag années 90 de CFM et la Geeking Radio. Aujourd'hui, on va chambouler un peu le programme habituel, et pour cause. Il ne vous aura peut-être pas échappé que la semaine dernière, le 5 avril très exactement, cela a fait 20 ans que Kurt Cobain quittait ce monde d'une balle de Remington en pleine tête. Alors à l'époque, l'onde de choc provoquée par son suicide avait été énorme. Même dans les coins les plus reculés de la planète, on en a entendu parler. Et de la même manière que pour la génération de nos parents, on se souvient de ce qu'on était en train de faire lorsque fut annoncé l'assassinat de JFK, pour la nôtre, ce sera la mort de Kurt Cobain. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut reconnaître que le chanteur de Nirvana, qui se voyait lui-même comme un punk en mission, aura contribué à épurer en profondeur les écuries du rock de l'époque et permis que soit mis un coup de projecteur sur toute une scène. 20 ans après sa mort, on peut le dire, Kurt Cobain est devenu une icône. C'est pour vous dire, ces derniers jours, on a même entendu parler d'une comédie musicale. Il n'aurait certainement pas aimé ce statut, mais c'est un fait. En appuyant sur la gâchette, c'est le club fermé des légendes du rock qui l'a rejoint. Et c'est cette légende que j'ai voulu célébrer aujourd'hui avec vous, dans Si les 90s m'étaient comptés, en vous proposant une playlist qui aurait pu être signée de Kurt lui-même, puisqu'elle est constituée de quelques-uns de ses groupes favoris au début des années 90. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer la balade musicale avec du Nirvana et You Know You're Right, une chanson enregistrée lors de leur dernier passage au studio, le Robert Lang de Seattle, le 30 janvier 1994. C'est la seule chanson complète qui est sortie de cette session de 3 jours et c'est celle qui restera donc comme l'ultime titre enregistré par Nirvana.
Une petite maison bourgeoise à Seattle, quartier résidentiel. C'est là que Kurt Cobain, 27 ans, le prince du rock grinçant grunge des années 90, cachait son mal de vivre. C'est là qu'hier, à 8h30 du matin, un électricien l'a découvert, après qu'il se soit tiré une balle dans la tête.
Quand l'électricien regardait à l'intérieur, il a vu un homme allongé sur le sol et il a remarqué qu'il avait un trou à la tête et qu'il y avait une note expliquant son suicide à côté.
Pour la jeunesse américaine, sa chevelure blonde était devenue le symbole du refus de l'Amérique reaganienne et puritaine. Fondateur du groupe Nirvana en 88, très vite, il est le chef incontesté du mouvement grunge. En 91, son album Nevermind se vend à des millions d'exemplaires, rivalisant avec Michael Jackson et Dire Straits. Le mois dernier, Kurt Cobain avait failli mourir d'une overdose. Hier, il est allé rejoindre le cercle des rockers disparus, Jim Morrison, Jimi Hendrix. À 27 ans, le petit prince américain n'a pas voulu vivre plus longtemps.
Hey!
Juste derrière Nirvana, on s'est écouté les Hawaïens de Chocobor, un groupe de l'écurie Amphetamine Reptile Records, dont Kurt Cobain était fan et qui a ouvert pour Nirvana sur la dernière tournée américaine du groupe à l'automne 93. Chocobor fait partie de ses nombreux coups de cœur musicaux de Kurt Cobain. Il écoutait énormément de musique et il avait donc souvent des découvertes très intéressantes. Parmi ses découvertes, on peut aussi citer Joe Breaker, un trio punk emo core de San Francisco, qui a aussi tourné avec Nirvana en 93. Jetez d'ailleurs un coup d'œil sur le livret de l'édition remasterisée de leur album Dear You, si vous l'avez à la maison, et vous pourrez y voir un Kurt arborant fièrement un t-shirt de Joe Breaker jaune et noir. Écoutez la radio CCFM, à moins que vous ne passiez par le web, et là c'est la Kicking Radio. Cécile et Nantes m'étaient comptés, une émission spéciale pour commémorer les 20 ans de la mort de Kurt Cobain, avec une programmation 100% cobainienne. C'était Jawbreaker et Buzzy, mon titre préféré de leur premier album Unfun, sorti en 90 chez Shredder Records. Un disque qui se trouve assez facilement puisqu'il a été remasterisé et qu'il est ressorti en 2010. Quand on évoque l'année 93 de Nirvana, on pense évidemment à l'album In Utero et on oublie trop souvent qu'en début d'année, le 15 février 93 très exactement, Nirvana avait partagé avec The Jesus Lizard un split single sur le label new-yorkais Touch and Go. Le titre qu'on vient d'ailleurs d'écouter de The Jesus Lizard, il est tiré de ce split single. C'est un superbe 45 tours sur vinyle bleu. Et ça vous intéresse, sachez qu'il se trouve assez facilement sur le web et que contrairement à d'autres collecteurs Nirvana, son prix est très très abordable. Alors avis aux amateurs. Un petit Meudonné cuvée 1991, ça passe tout seul, c'était Broken Hands, un extrait du fabuleux Every Good Boy Deserves Fudge. Que dire de Nirvana et Meudonné? Ben évidemment que les deux groupes se sont souvent croisés, Nirvana ouvrant pour Meudonné à leur début, puis le contraire. Kurt Cobain était aussi un grand fan de Green River, le groupe qui a précédé Meudonné, et où jouaient Mark Arm et Steve Turner, et surtout, Dan Peters, le batteur de Meudonné, a brièvement tenu les baguettes chez Nirvana durant l'été 90, un été crucial, puisque c'est durant cet été 90 que furent retravaillées la plupart des compositions qui aboutirent à l'album Nevermind, Nevermind que vous connaissez forcément. Pour le titre qui vient, j'ai choisi une chanteuse, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de l'anglaise P.G. Harvey, l'égérie du regretté John Peel de la BBC, une chanteuse qu'appréciait aussi particulièrement Kurt Cobain. Pour preuve, le premier album de Polly Jean, Dry, fait partie de ses 20 disques préférés. Plus récemment, Dave Grohl, le batteur de Nirvana, a reconnu que pour le concert de son projet Sound City à Londres, il avait eu un temps l'idée d'inviter P.G. Harvey pour ressusciter Nirvana et reprendre Milk It, mais que pour des raisons d'emploi du temps, cela n'avait malheureusement pas pu se faire et c'est effectivement bien dommage. Voici P.G. Harvey sur CFM Rodez, extrait de ce fameux album de 1992, Dry, et le Punky Dress. En plus de voir la sortie de Dry de P.G. Harvey, fut aussi une grande année pour un autre des groupes préférés de Kurt Cobain. Je veux évidemment parler des New Yorkais de Sonic Youth. Sonic Youth qui était considéré par Nirvana comme un genre de parrain. À l'automne 92, ils avaient notamment écumé l'Europe ensemble à l'occasion d'une tournée immortalisée sur la VHS 1991, The Year Punk Broke, dont vous vous souvenez peut-être. Mais revenons à nos moutons. 1992, c'est l'année de sortie de Dirty, une des pierres angulaires de la discographie de Sonic Youth. Certains vous diront que c'est leur disque le plus commercial. La production signée Butch Vig et le mix d'Andy Wallace n'y sont peut-être pas pour rien. Il n'empêche que Dirty est avec goût, leur précédent album, un des plus gros succès de Sonic Youth. Tout cela en particulier grâce à des tubes noisy comme il n'en existe pas d'autres. Voici tout de suite leur Drunken Butterfly.
I love you, what's your name?
enchaîné à Sonic Youth. Vous aurez sûrement reconnu les Pixies, un autre de ces groupes qui ont contribué largement à façonner le son Nirvana. Le jeune Kurt Cobain avait beaucoup écouté leur surfeur Rosa, au point qu'il faisait partie de ses disques cultes, classé numéro 2 très exactement dans son top 50 perso, juste derrière le Raw Power des Stooges. Mais là, c'était un extrait de Trompe le Monde de 1992. Juste derrière, à la troisième place du top perso de Kurt Cobain, on trouve un autre disque signé par une Pixies. C'est le Pod de The Breeders. Kurt Cobain adorait les Breeders pour leur signature unique et atmosphérique. Et comme il le disait, c'est dommage que Kim Deal n'ait pas écrit plus de chansons pour les Pixies, car Gigantic était sa chanson préférée des Pixies et elle est justement signée Kim Deal. Il faut aussi noter que c'est Steve Albini qui a enregistré Pod. Ça explique sans doute le fait qu'il ait ensuite été choisi par Nirvana pour In Utero. I wait for you in heaven. On this perfect string of love and drink your soup of magpies in a pottery bowl. It looks as I am now, brown, round and warm. Chime on the rain, wet an ankle, toes it too sweetly as it drops upon your head, just like it did today. Puisqu'on est au rayon des grands aspirateurs de Kurt Cobain, impossible de ne pas citer non plus les fantasques Butthole Surfers, le groupe qui a le plus ouvert pour Nirvana sur la tournée In Utero fin 93, début 94, où ils tournaient en support d'Independent Warm Saloon, leur premier album sur Major, alors qu'ils étaient dans le circuit d'ailleurs depuis 1977. Un disque produit par John Paul Jones, le bassiste de Led Zeppelin, absolument excellent, un disque qui a reçu d'ailleurs un bon accueil critique, et qui, à la surprise générale, permis aux Butthole Surfers de décrocher leur premier tube avec Who Was In My Room Last Night, qu'on s'écoute tout de suite dans ce Si les 90s m'étaient comptés, programmation spéciale 20e anniversaire de la mort de Kurt Cobain.
stars drip down like butter. Promises are sweet. We hold out our hands with our hands to catch them. We eat them up, drink them up.
On approche du terme de ce 8e épisode, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette playlist 100% cobainienne. C'était REM en 94 et Let Me In, un titre que Kurt Cobain n'a pas pu écouter, et pour cause, il est sorti quasiment 6 mois après sa mort, mais il lui est dédié. La guitare qu'on entend sur ce morceau, c'est la sienne, c'est la Jack Stang couleur Sonic Blue que Courtney Love a donné au guitariste de REM Peter Buck. On peut la voir dans les clips de What's the Frequency Kenneth et de Let Me In. Et Mike Mills, un autre membre de REM, l'utilisait régulièrement en concert sur ce morceau. On aurait pu aussi écouter dans cette émission Half Japanese, du Shonen Knife, du Melvins ou du Vaseline's. Oui, mais voilà, si les 90s m'étaient comptés, c'est fini pour aujourd'hui. On va se quitter avec une rareté qui n'en est plus vraiment une, puisqu'il est disponible sur le coffret With the Lights Out. C'est un des derniers titres sur lequel travaillait Kurt Cobain en 94. Nul ne sait si c'était pour du Nirvana ou un éventuel album solo. En tout cas, la chanson est superbe, elle s'appelle Doremi et elle laisse entrevoir quelques-unes des possibilités qui s'offraient à Kurt Cobain dans un registre folk. Car comme il le disait lui-même souvent fin 1994, il était lassé de l'image de chanteur grunge qu'on lui avait collé sur le dos. Alors je vous laisse avec ce titre magnifique. Allez, bye bye, rendez-vous dans 15 jours, ciao.